Radio Stable.
Morning Edition from
NPR.
Que se reproduce y esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
Je suis allée au lycée privé. C'était très cher. Si on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile pour étudier.
Ça pourrait se passer partout, c'est au Japon où c'est la rentrée des classes, figurez-vous. On fantasme beaucoup sur le système éducatif japonais, ultra sélectif, ultra performant, mais qui rend les ados très malheureux. Eh bien, on verra ce qui est vrai et ce qui est faux, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars, en Israël, qui refuse de régulariser des migrants en dépit d'un accord avec l'ONU. Ce sera avec Florence Paracuelos. 18h50, le feuilleton écolo du mardi. Et McDo qui supprime les pailles en plastique. Ça commence en Grande-Bretagne, une paille de progrès dans l'eau. Océan de plastique, mais sinon, dites-moi, on remplacera ça par quoi ? 18h55, le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, la dernière sortie de Mohamed Belsalman, disant qu'Israël a le droit de vivre en paix. Ça ressemble à une vraie bonne nouvelle venue d'Arabie Saoudite, à moins que Jean-Marc Four nous expliquera tout ça. Mais d'abord, je vous emmène sous la table des négociations diplomatiques avec la Chine, avec l'Allemagne, avec l'Europe, notamment ces 50 dernières années. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure.
Fabienne Saint-Vest. Un jour dans le monde.
Alors autant le dire tout de suite, le livre dont on va parler ensemble n'est pas un pavé, c'est un parpaing. 946 pages, Jean-Claude Martin, bonsoir.
Bonsoir.
C'est une plaisanterie, c'est 946 pages, mais c'est beaucoup dans la vie d'un diplomate, c'est peu même dans la vie d'un diplomate finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pourriez encore raconter, j'en suis persuadé. Tout ça en tout cas est passionnant, vous faites partie de ces diplomates dont on connaît rarement le nom, si ce n'est dans les chancelleries, mais c'est un délice de partager des secrets avec vous. On croise Malraux au passage de votre livre, on croise aussi Isabelle Adjani ou Lino Ventura, ça s'appelle « La diplomatie n'est pas un dîner de gala » et c'est publié aux éditions de l'Aube. Alors vous avez été en poste à Bonn, vous avez été en poste à Berlin, vous avez beaucoup parlé d'affaires européennes et on y viendra, mais votre grande affaire, votre grande histoire d'amour même, c'est la Chine. Et vos histoires se confondent en fait, puisque la France est la première à reconnaître la Chine de Mao. Vous êtes à peine entré à l'ENA et vos deux histoires vont pouvoir se confondre puisque c'est là que tout commence pour vous en fait.
Oui, j'ai toujours été passionné par le monde extérieur et j'ai toujours été passionné en particulier par deux pays dont je sentais qu'ils étaient pour nous importants déjà dans les années 50. J'étais tout jeune au lycée. L'Allemagne d'un côté, on sortait de la guerre. Dans la banlieue où je vivais, les traces étaient omniprésentes. Et la Chine, l'Asie, parce que dans ma famille, il y avait eu des relations avec l'Asie. J'avais un oncle missionnaire qui avait été martyr en Birmanie. Et je voulais savoir ce que c'était que l'Asie, et en particulier ce que c'était que la Chine, puisque c'était le grand pays au milieu de l'Asie. Et j'ai toujours conjugué les deux choses.
Et le pays, d'ailleurs, la Chine, dont on ne sait rien, vous le dites d'ailleurs, on naviguait à vue depuis 30 ans sans comprendre vraiment ce que c'était que ce pays-là, à cette époque en tout cas.
C'est-à-dire qu'au moment où le général de Gaulle a reconnu la Chine, en 1964, nous n'avions plus du tout d'expertise sur la Chine. Cette rupture, depuis 1949, avait été dévastatrice. Même au Quai d'Orsay, il n'y avait plus de grands experts de la Chine. Et la Chine elle-même était très fermée.
Pardonnez-moi.
Et elle a accentué sa fermeture, puisque peu de temps après mon arrivée en Chine, ça a été la révolution culturelle, quelque chose de totalement incompréhensible, d'illisible au début, dont on a su après, grâce à quelques grands sinologues, quels en étaient les dessous.
Alors, ce qui est formidable, vous avez 20 ans à peine, hein, c'est votre service de l'ENA que vous faites en Chine. Ce qui est formidable, c'est que la première chose que vous faites, c'est d'acheter un vélo.
Oui.
Pour voir comment ça se passe à l'intérieur, en fait.
Oui, parce que j'ignorais tout, et de la Chine, et de la diplomatie. Et la première chose que j'ai découverte en arrivant à Pékin, c'est que la diplomatie pouvait ne pas s'intéresser du tout au pays dont elle était supposée s'occuper. L'ambassade, aussi par la volonté des Chinois, était à 15 kilomètres de la ville. Et la première chose qui m'a semblé nécessaire, c'est d'acheter un vélo pour aller voir ce qui passait dans la capitale de la Chine, Pékin, qui était fabuleuse. Mais nous étions complètement excentrés dans un petit univers diplomatique où il est facile de s'amuser, de se distraire. D'où le titre du livre « La diplomatie n'est pas un dîner de gala ». Voilà. Parce que, a priori, et encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, la diplomatie, c'est une profession dans laquelle on s'amuse.
Alors, on s'amuse, on voit aussi, on voit les grands de ce monde, on est sous la table à certains moments. Même chez vous, même vos camarades, même les gens de l'ENA, même tous ceux qui derrière sont chargés, j'allais dire, de vous placer après dans les grandes administrations, vous disent mais ça n'a aucun intérêt, tu perds ton temps avec la Chine, qu'est-ce que tu fais à t'intéresser à ce pays-là?
Eh bien, c'était aussi parce que dans la promotion de l'ENA à laquelle j'appartenais, qui est sortie en 1968, la promotion Turgot, il y avait un très grand espoir européen et une illusion sur la rapidité avec laquelle le processus de rapprochement et d'unification européenne allait se faire. Et donc, beaucoup pensaient que 10 ans ou 15 ans après notre sortie de l'ENA, il n'y aurait plus d'ambassade française, il y aurait
des ambassades européennes. La diplomatie nationale ne sert plus à rien, c'est ce qu'on vous dit. Dans 20 ans, on aura des ambassades européennes.
Je pensais deux choses. Je pensais que très vite, l'Europe devait s'intéresser à la Chine. Pas la France, pas l'Allemagne, pas l'Angleterre, pas l'Italie, mais l'Europe, parce que l'immensité de la Chine imposait de raisonner en européen face à elle. Mais je pensais en même temps que cette Europe-là, elle serait construite sur les grands pays européens et sur les identités nationales. Et donc, j'ai une vision de l'Europe que j'ai gardée tout au long de ma vie pendant 50 ans et qui se reflète, je crois, dans ce livre, c'est que l'Europe et la diplomatie extérieure de l'Europe, elle se fait sur la base des États.
Et des choses qui vous ont fait de la peine, du coup, on y viendra. Dans cette Europe-là, il y a cette phrase que je retiens en vous entendant, c'est Deng Xiaoping qui vous le dira, qui vous dit « L'Europe sera un important partenaire quand elle existera. »
Absolument.
Ce qui est une manière de vous dire « Mettez-vous en place, hein, parce que pour l'instant, vous ne l'êtes pas. »
Mais parce que l'Europe a raté tous ses rendez-vous. Au départ, nous étions seuls, les Européens. Les États-Unis étaient encore très hostiles à la Chine, et donc nous avions la possibilité d'avancer en tant qu'Européens vers la Chine. Or, quand le général de Gaulle a reconnu la Chine, personne ne l'a suivi. L'Italie, un peu après. Et tous les autres ont attendu 72, c'est-à-dire que Nixon fasse un voyage en Chine pour, à toute allure, se ruer à leur tour sur le marché chinois.
Mais vous ne croyez pas que Xi Jinping pourrait dire quasiment la même phrase aujourd'hui? En fait, l'Europe sera un important partenaire quand elle sera vraiment là. Est-ce qu'on n'est pas toujours, pour la Chine, de toute façon, un partenaire de deuxième rang?
La différence, c'est que Deng Xiaoping croyait à l'Europe. Il avait vécu en France pendant presque 6 ans. Et il était un grand admirateur de la France, même si pendant les années qu'il avait passées comme ouvrier à Paris, il avait plutôt souffert. Mais il avait ensuite, à partir de 1975, quand il est venu visiter la France, une grande admiration pour les technologies européennes. Et il nous pressait, c'est la phrase que vous citez, il nous pressait de nous réunir pour offrir à la Chine une offre européenne. Xi Jinping, aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Xi Jinping, c'est le président d'une très grande Chine qui se sent très forte, qui ne veut se comparer qu'aux États-Unis. Les Européens sont plutôt des lilliputiens qui tournent là autour, des petits roquets qui gênent un peu le jeu, qui doit être un jeu entre la Chine et les États-Unis. Et donc, nous avons une double difficulté aujourd'hui, c'est que nous devons nous réunir, mais nous devons nous réunir face à une Chine qui semble ne plus avoir tellement envie de parler avec nous.
Quand on lit d'ailleurs aujourd'hui que Xi Jinping est aussi tout aussi puissant que pouvait l'être Deng Xiaoping, et même peut-être plus puissant encore que Mao l'était, est-ce que c'est une lecture qui vous paraît conforme ou pas?
Oui, tout à fait, parce que il a nettoyé un peu au sein du groupe dirigeant les oppositions.
Il a nettoyé très fort.
Il a éliminé un certain, évidemment sous le prétexte de la corruption, mais aussi en utilisant avec une grande habileté le fait qu'il est à la fois extrêmement compétent, extrêmement intelligent, et le fils d'un des compagnons de route de Mao. Donc il a une grande légitimité. Et en même temps, il a joué ses cartes avec beaucoup d'habileté. Il a éliminé à la fois à droite et à gauche. Il a éliminé tous ceux qui n'étaient pas directement proche de lui, et donc il a constitué un groupe très homogène qui dirige à la fois le parti, l'État, l'armée, la culture, et il a donc effectivement tous les pouvoirs.
Et dirigé pour plus longtemps que prévu, puisqu'il a écarté ses propres limites, il peut aller bien au-delà des 10 ans désormais, donc qu'est-ce qu'il y a devant lui
maintenant? Alors là, personne ne le sait, c'est-à-dire qu'il a simplement supprimé cette limitation dans le temps qui faisait qu'on ne pouvait pas diriger la Chine pendant plus de 10 ans. C'était une règle que Deng Xiaoping fort sagement avait posée. Mais le prédécesseur, Jiang Zemin, avait lui-même, après avoir fait ses 10 ans, continué à régner derrière le successeur dont il avait un peu manipulé les manettes. Et donc, je ne suis pas, moi, impressionné par le fait qu'on fasse sauter la limite de temps. Ce qui est important, c'est de savoir quelle politique Xi Jinping va mener.
Alors, on va revenir évidemment à votre vie. On fera des allers-retours comme cela. Il y a quelques passages qui sont savoureux. Je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. L'arrivée de Malraux, par exemple, dont moi j'apprends que dans la condition humaine, il n'a jamais mis les pieds en Chine, en fait. Et la Chine que vous lui montrez, qu'il va voir à ce moment-là, est totalement non conforme à ce qu'il avait imaginé.
Oui, Malraux est venu en Chine dans un moment où il faisait, je crois, un peu une dépression nerveuse. Il avait quitté, il était toujours ministre de la Culture, mais en fait, il avait quitté ses fonctions. Il était parti sur un bateau qui s'appelait le Cambodge, faire un tour d'Asie. Le Cambodge rappelait d'ailleurs ses aventures en Indochine qui étaient un peu fâcheuses. Et c'est en Indochine qu'il s'était intéressé à la Chine. Il était allé à Hong Kong. Il avait soutenu quelques petits groupuscules indépendantistes à Saïgon. Et puis, il avait, à Hong Kong, commencé à essayer de réfléchir à l'édition d'un journal qui aurait été indochinois et chinois. Et il était à Hong Kong en relation avec des gens qui, eux, s'intéressaient à ce qui se passait à Canton, à Shanghai, donc dans les deux foyers de la révolution chinoise des années 20. Et donc, il a utilisé ce qu'il a entendu pour écrire à la fois les conquérants et la condition humaine. Et pendant très longtemps, mais ensuite, ça c'est le milieu parisien qui l'a voulu. On l'a crédibilisé, il a eu des prix qui ensuite en ont fait une des grandes stars de la scène littéraire
française. Est-ce qu'il n'enlève rien d'ailleurs à ce qu'il est sur la scène littéraire?
Il a été en Espagne où là, il a été effectivement un héros de la guerre civile espagnole. Et ça a rétrospectivement crédibilisé un peu ce qu'il disait de son expérience chinoise. Mais quand il est arrivé en Chine, on voyait qu'il ne connaissait rien. Alors, il disait « je suis revenu voir les copains ». Mais les Chinois disaient « nous ne connaissons pas ce monsieur ». Donc c'était très embarrassant pour les représentants officiels de la France, surtout vis-à-vis d'un homme qui était le ministre de la Culture du général de Gaulle.
Claude Martin, on va faire un grand pas en avant, un grand bond dans l'histoire. Il y a des moments où on dit souvent que être là où il faut, c'est une question de chance, mais ou pas vraiment. Hein. Parfois c'est un heureux hasard, heureux ou pas. En tout cas, vous êtes sur la Piazza Tiananmen entre le 3 et le 4 juin. C'est même un policier qui vous retire de la place pour partir parce que vous avez déjà vu les chars arriver et vous savez ce qui va se passer à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faisiez sur cette place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin 89?
Oui, c'est un hasard, mais on peut dire que le hasard est omniprésent dans la vie des diplomates. J'étais à ce moment-là directeur des affaires d'Asie au Quai d'Orsay. Je m'employais depuis 3 ans à essayer de trouver une solution au problème cambodgien. Mmh. C'était une question très très difficile parce qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas se parler. Mmh. Il y avait derrière les acteurs, les 4 factions cambodgiennes qui se détestaient des grandes puissances, les États-Unis, la Russie, le Vietnam, la Chine. Et donc c'était un écheveau absolument inextricable. Donc pendant 3 ans, j'ai essayé de renouer les fils et de faire que tout le monde se parle.
Et pardon, d'essayer de raccourcir votre histoire, parce qu'on a d'autres passages à... Alors, il faut chercher le prince Sihanouk,
voilà,
il est parti à Pékin.
Donc voilà, donc j'avais organisé une conférence qui devait se tenir à partir de la fin juillet 89 à Paris. Et au dernier moment, celui qui était pour nous la clé de voûte de la solution, c'est-à-dire le prince Sihanouk, est reparti pour Pékin. Donc, je suis allé le chercher à Pékin. Le président Mitterrand m'avait confié une lettre pour lui remettre. Et donc, je me suis trouvé à Pékin le soir du 3 juin où j'apprends que le prince Sihanouk est parti, a été exfiltré à cause des manifestations sur la place Tiananmen.
Et vous êtes pile dedans.
Dans une ville. Et alors, je suis allé voir les manifestations sur la place Tiananmen et je me suis trouvé, j'ai vu les chars arriver, j'ai vu tout ce qui se passait et j'ai pu rendre compte de ce que j'avais vu personnellement sur la place au ministre Roland Dumas et au président de la République dès mon retour à Paris.
Il y a une chose qui est fort intéressante dans ce que vous entendez après, ce que vous entendrez même quelques mois après. C'est un choc évidemment Tiananmen pour le monde occidental à ce moment-là. Vous allez d'ailleurs parvenir à exfiltrer un certain nombre de dissidents chinois. Vous auriez pu d'ailleurs y jouer votre statut de diplomate, non? Parce que c'était totalement votre initiative à vous que d'exfiltrer ces gens-là.
Nous étions quelques-uns. Mm. Beaucoup étaient diplomates. Et c'était au fond notre vie de citoyen, notre conscience qui fonctionnait, qui nous disait « bon, Nous devons conserver des relations avec la Chine, ça c'est très important. Et dans mon bureau de directeur d'Asie, je m'employais à maintenir des relations avec la Chine. Mais à côté, nous faisions tout pour que la France accueille ces dissidents qui étaient sortis par des moyens invraisemblables à Hong Kong et auxquels il fallait donner très rapidement un visa.
Et j'y reviens parce que pour nous, le vrai bât qui blesse en Chine, c'est celui des droits de l'homme, évidemment. Et c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement important pour nous, beaucoup moins évidemment de leur point de vue à eux. Il y a ce moment où vous devenez ambassadeur en Chine réellement et que le président Wang vous reçoit et vous dit cette chose: la Chine s'est engagée dans de grandes réformes, mais sur les principes qui régissent l'ordre et la société, elle ne changera pas. Fait bien comprendre ça en France, les Chinois sont heureux. Une manière de vous dire, ne cherchez pas à nous changer parce que vous ne nous connaissez pas en fait. Vous ne savez pas ce qu'on veut réellement en matière de droits de l'homme.
Tout à fait. Ce que me dit le président de la République de l'époque, Yang Shangkun, Xi Jinping pourrait le dire aujourd'hui. C'est exactement le même langage. C'est-à-dire, vous, les Occidentaux, vous croyez à des valeurs qui sont basiquement des valeurs chrétiennes. Tout votre humanisme est fondé sur des valeurs chrétiennes. Vous avez, à partir de là, construit un état de droit international qui reflète ces valeurs. Nous avons un autre système de valeurs, un autre système de pensée. Donc, si vous voulez nous changer et nous imposer vos valeurs, nous ne nous entendrons pas. Si vous acceptez, à partir du moment où vous êtes ici, l'ambassadeur de la France, de porter vos valeurs ici, bien sûr, mais en même temps de rendre compte en France de ce que sont nos valeurs à nous, alors nous vous accepterons.
Claude Martin, je disais, vous avez fait beaucoup d'allers-retours entre Pékin, l'Europe, vous avez été ambassadeur donc à Bonn puis Berlin. Et ce qu'on lit, c'est une sorte de dépit, je reviens à l'Europe, on lit un dépit sur l'Europe, on lit une énorme déception. C'est étonnant, on apprend tout à la fin que vous avez voté non au référendum, par exemple, en 2005. On lit quelqu'un qui a tout fait pour la construction de l'Europe et qui s'est empêtré comme les autres au milieu d'un administratif qui était trop fort, de choses qui étaient complètement absconce, en fait, que les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est comme une blessure chez vous, en fait, quand on vous lit.
C'est-à-dire que c'est un regret que l'Europe n'ait pas choisi la voie que moi, je pensais, la bonne voie, je l'ai dit tout à l'heure, dès le début, je suis convaincu que l'Europe devait être construite sur les États. Et ce n'est pas une déception que je rapporte dans le livre, c'est plutôt un regret que l'Europe ait choisi
une autre
voie.
C'est un dépit amoureux. Moi, je lis un peu comme une sorte de dépit amoureux, en fait.
L'Europe était possible autrement, je pense que l'Europe sera possible autrement, je pense que nous sommes dans une impasse et qu'aujourd'hui, loin de nous donner à tous, Européens, une influence dans le monde, la façon dont l'Europe a été construite nous paralyse. Et l'Europe est impuissante de la façon dont elle s'est construite. Donc il y a la possibilité, à l'intérieur de ce grand mollusque européen, de retrouver les forces vives que sont les États, et en particulier la France et l'Allemagne.
Claude Martin, je dois vous laisser partir, mais quand même un petit dernier mot. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec Vladimir Poutine et les espions et autres diplomates qu'on s'échange et qu'on se renvoie? À quoi elle ressemble, cette diplomatie, aujourd'hui, selon vous? Est-ce que là aussi, vous avez l'impression qu'on est dans un tout autre monde par rapport à celui qui était le vôtre?
L'affaire des espions, c'est une affaire d'espions.
Ouais.
Et je pense qu'autrefois, on aurait traité ces affaires de guerre entre services, comme des guerres entre services, sans immédiatement invoquer la solidarité occidentale et construire toute une diplomatie autour de ça. Mais ce que ça reflète, le fait qu'on soit passé d'une guerre d'espions à une grande hystérie diplomatique, c'est le fait que d'une certaine façon, l'Europe n'existe plus et que nous sommes redevenus des Occidentaux, dans lequel l'identité européenne et le fait que les Européens ont quelque chose à voir entre eux disparaît.
Claude Martin, ça s'appelle « La diplomatie n'est pas un dîner de gala, mémoire d'un ambassadeur », c'est aux éditions de l'Aube, c'est très lourd mais c'est absolument passionnant, on est avec vous vraiment dans chacun de vos voyages et sur votre vélo aussi dans les rues de Pékin et d'ailleurs. Merci mille fois.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
Suite d'un jour dans le monde, c'est la rentrée des classes au Japon. Florence Paracuelos nous emmène en Israël. Le feuilleton écolo et Sandy Dauphin. Sandy, un petit bout de plastique qui tient debout mais qui veut dire beaucoup. McDo renonce aux pailles en plastique.
Oui, plus généralement au Royaume-Uni, on assiste à une fronde anti-paille en plastique. Même la reine d'Angleterre s'y met. Nous verrons pourquoi.
Allez, à tout à l'heure. Le Monde à l'envers, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Mohamed Ben Salman, le prince saoudien qui estime qu'Israël a le droit de vivre en paix. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde sauf pour vous.
Ah, c'est une petite révolution. Est-ce une bonne nouvelle? Oui et non.
Et on verra ça dans un instant. Marianne Faithfull sur France Inter, The Ballad of Lucy Jordan.
lightly on the eyes of Lucy Jordan in a white suburban bedroom in a white suburban town. As she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing little nursery rhymes she'd memorized. He was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours, or rearrange the flowers, or run naked through the shady street, screaming all the way. She realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head.
Formidable, Marianne Faithfull et la balade de Lucy Jordan qui vous accompagne peut-être dans les bouchons. Bon courage et merci de nous écouter. Laurence Paracuello, c'est là.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie vos papillons.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, on commence en Israël, sous les radars ce soir, avec l'intenable position de Benjamin Netanyahou sur les migrants.
Ça fait 6 mois que le gouvernement israélien élabore des plans pour expulser quelques milliers d'Africains de l'Est, à peu près 30 000 Soudanais et Érythréens, arrivés illégalement par le Sinaï égyptien. Il y a quelques années, la frontière était poreuse avant la chute de Moubarak. Pressé par sa droite, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, commence par élaborer le plan suivant. Soit les migrants rentrent chez eux, soit on les renvoie dans un pays tiers, soit c'est la prison, tollée dans le pays. Des dizaines de milliers de manifestants, dont des survivants de la Shoah, dénoncent un plan de la honte. Impossible de renvoyer quiconque au Soudan et en Érythrée, c'est bien trop dangereux. Reste l'option du pays tiers, c'est au Rwanda que pensait Netanyahou, mais le Rwanda a dit non, d'où cet accord avec l'ONU annoncé hier. Netanyahou explique qu'il a fallu trouver un plan B. 14 000 migrants vont donc rester en Israël. Ils seront dispersés dans le pays pour ne pas peser sur les quartiers sud et pauvres de Tel Aviv. Et 16 000 s'envoleront vers le Canada, l'Italie et l'Allemagne notamment. Problème, les Italiens et les Allemands qui ont fort à faire avec leurs propres migrants ne sont pas au courant. Les chancelleries le font savoir. Et la droite israélienne hurle contre ce nouveau plan. Pas question de garder des milliers d'intrus. Ils doivent partir. Résultat, quelques heures après avoir annoncé son plan, Netanyahou le suspend puis l'annule. Malgré les difficultés croissantes, nous allons tout faire pour sortir les clandestins du pays, dit-il aujourd'hui. On en est là, dans ce pays d'émigration, fondé par des exilés d'Europe de l'Est, rejoint par des Nord-Africains, par des Éthiopiens et par presque 1 million de Russes. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU espère qu'Israël va rapidement reconsidérer sa décision.
On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 19h. Florence, en Inde, des milliers de lycéens contraints de repasser le bac.
Horreur et damnation, ben oui. Presque 3 millions de lycéens de Delhi, les pauvres et de Delhi et des environs, ils ont planché la semaine dernière, mais c'était avant que les autorités ne s'aperçoivent que les sujets de maths et d'économie avaient fuité sur WhatsApp 90 minutes avant l'examen. Le ministre de l'Éducation a promis de châtier les coupables dans un pays où la tricherie aux examens est un sport national. Moyennant finance, vous pouvez faire plancher quelqu'un à votre place. Il y a 2 mois, 1 millier d'étudiants se sont fait choper avec des antisèches dans l'état du Bihar. Dans ce même état, des centaines de parents s'étaient fait arrêter en 2015. vus et même filmés, accrochés aux murs et aux fenêtres d'un centre d'examen de plusieurs étages. Ils tendaient des antisèches aux étudiants par la fenêtre, les étudiants au travail. Du coup, cette année, l'État du Bihar a installé des caméras de vidéosurveillance dans les salles d'examen et obligé chaque étudiant à laisser ses chaussures et ses chaussettes à la porte.
Les chaussettes, anti-sèche dans les chaussettes.
Oui. C'est vieux comme
le monde. Et c'est pas si facile à dire, anti-sèche dans les chaussettes. Allez, on reste sur le domaine de l'éducation.
Voilà.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
On ne trouve pas le monde de l'éducation, je le disais, parce que figurez-vous que c'est la rentrée scolaire au Japon. En ce début avril, le système éducatif japonais, on a tous l'impression qu'on le connaît, très sélectif, très performant, très violent aussi pour les enfants. L'idée est donc d'essayer de remettre un petit peu les choses à leur place et voir réellement combien, finalement, ou pas, ce système nous ressemble. Bonsoir Sonia Bourhan.
Bonsoir.
Et vous revenez justement de Tokyo, vous avez regardé ça tout près. Alors, l'organisation japonaise, Sonia, est-ce qu'elle ressemble à la nôtre ?
Eh bien, plutôt, oui. À 3 ans, les petits japonais vont à l'école maternelle ou au jardin d'enfants. L'école primaire dure 6 années, de 6 ans à 12 ans. Ensuite vient le collège pour 3 ans, puis le lycée 3 ans également. Ce qui est très particulier, c'est l'importance du lycée, tout aussi déterminant que l'université, comme l'explique Yusei, 26 ans, qui a terminé ses études.
Au Japon, c'est vraiment une société de non d'université, non de lycée. Par exemple, si on cherche un travail, toutes les entreprises nous demandent le nom de lycée et le nom d'université. C'est important. C'est vrai que mes amis de mon lycée, ils étaient vraiment motivés, ils étaient vraiment stressés en même temps. Mais quand même, ils détestent pas étudier. Pour eux, pour nous, l'étude, c'est vrai que c'est fatigant, mais on sait bien que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est nécessaire pour vivre dans la société japonaise.
Les élèves travaillent beaucoup, la plupart ont des cours privés le soir après l'école. Pour rentrer au lycée, les collégiens passent un examen. Les lycées sont très hiérarchisés. Il y a environ 30% d'établissements privés qui ont leur propre examen d'entrée et qui sont très prisés, comme le dit Kota. Il a 18 ans et vient de terminer le lycée.
If I had a child, then I really want to have my children go to.
Si j'avais un enfant, je préférerais vraiment qu'il aille dans un lycée privé plutôt qu'un lycée public. Dans la plupart des lycées privés, il y a beaucoup de liberté. Par exemple, dans les lycées publics, les professeurs doivent respecter les directives du ministère de l'Éducation. Mais dans les lycées privés, les professeurs doivent aussi les respecter, mais ils ont beaucoup plus de liberté. Et c'est plus amusant pour les élèves, bien sûr. Par exemple, on fait beaucoup d'expériences en cours de physique ou en cours de biologie. On va dehors en cours de biologie pour observer la nature, les fleurs, mais dans les lycées publics, c'est rare.
Mais c'est très coûteux pour les familles, comme le raconte Reina, étudiante en deuxième année à l'Université de Tokyo.
Je suis allée au lycée privé. Ah, c'était très cher. Si on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile pour étudier. Je suis allée aussi à l'école primaire, c'est aussi privé. Donc mes parents ont beaucoup payé pour moi.
Ses parents ont payé environ 700 000 yens par an pour le lycée, c'est-à-dire plus de 5 000 euros. Depuis quelques années seulement, les lycées publics sont gratuits, sauf pour les frais d'inscription et les manuels scolaires. Mais le système japonais est en train de changer. Jun Oba est professeur à l'Institut de recherche pour l'enseignement supérieur à l'Université d'Hiroshima. Il publie chaque année un rapport sur l'organisation du système éducatif japonais.
Maintenant, il y a une tendance de diminution de la population. Il y a beaucoup de lycées qui ont du mal à recruter des élèves. Dans ce cas, ce lycée doit accueillir tous les candidats, indépendamment du niveau académique des candidats.
Donc finalement, votre système devient moins sélectif du fait de la démographie.
Oui, c'est ça. La sélection fonctionne bien lorsqu'il y a plus de candidats que les postes. Et maintenant, le taux d'accès au lycée, c'est presque 100%. La sélection ne fonctionne plus. Donc certains collégiens ne travaillent plus. et il entre dans le lycée sans avoir des connaissances suffisamment. Et même certains collégiens ne savent pas calculer, ne savent pas écrire.
Est-ce que vous êtes inquiet, vous?
Bien sûr, oui. Beaucoup inquiet. C'est pour ça que nous pensons maintenant établir, introduire un système de un test ou épreuve comme, type baccalauréat qui sanctionne la fin des études secondaires ou de collège parce qu'il n'y a pas de pression.
Le Japon reste malgré tout le deuxième pays le plus performant au monde après Singapour dans le dernier classement PISA qui mesure les résultats scolaires des élèves. L'autre particularité de ce système éducatif, c'est l'importance de la filière générale. 73% des collégiens entrent au lycée général. À titre de comparaison, c'est 50% en France.
Alors, question Sonia, les autres, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a une filière professionnelle au Japon comme en France?
Oui, mais elle est très peu valorisée, ce que confirme Yusei.
Les lycées professionnels, c'est un peu mal vu. Parce que l'examen n'est pas très difficile. Donc, si par exemple, si je dis « Ah moi, je vais rentrer au lycée professionnel », mais je pense que tout le monde pense que j'ai pas réussi, j'ai raté l'examen, parce que c'est vraiment facile d'entrer. En plus, il y a des mauvais étudiants, entre guillemets, par exemple, qui commencent à fumer à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand ils sont mineurs. C'est pas bien vu du tout, du tout, du tout.
Pour redorer l'image de la voie professionnelle, le gouvernement japonais a créé il y a plus d'une vingtaine d'années une filière intégrée qui propose à la fois un enseignement général et un enseignement professionnel. Environ 5% des élèves y accèdent, mais même dans les filières professionnelles, les matières générales sont privilégiées. Yasushi Nohara est actuellement expert à l'Institut national pour les diplômes et l'évaluation universitaire et ancien spécialiste de la recherche sur l'éducation au ministère japonais de l'Éducation.
Au Japon, chaque établissement que vous avez fréquenté, vous avez appris, où vous avez été formé et où vous avez fini vos études indique ce que vous possédez comme connaissances et comme compétences et ce que vous pouvez accomplir et réaliser.
Those things indicate what you have knowledge, skill and can perform and achieve.
Les qualifications professionnelles peuvent apporter un plus aux étudiants qui cherchent un emploi, mais elles ne peuvent pas leur donner la garantie absolue d'obtenir un travail.
Les Japonais peuvent trouver un travail qui n'a pas de lien direct avec leur diplôme ou leur secteur d'études. Yusei, par exemple, a fait des études de littérature française et a travaillé dans le commerce en sortant de l'université.
On a entendu en tout cas qu'il avait fait des études de littérature française, Yusei. Merci beaucoup Sonia Bouran, spécialiste éducation de France Inter. Et vous revenez quand vous voulez dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Saint-Esse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
Sandy Dauphin qui verdit et refroidit la planète tous les mardis dans Un jour dans le monde. Sandy, ce soir, McDo décidément veut donner l'exemple. Et commence au Royaume-Uni où les pailles sont désormais bannies ou vont disparaître peu à peu. Alors autant commencer par boire sans paille, hein, parce que ça va venir tout de suite, et que les initiatives locales se multiplient pour demander l'interdiction totale des pailles.
Oui, vous vous souvenez peut-être de cette image en 2015 qui avait fait le tour du monde, une tortue avec une paille coincée dans la narine, que les vétérinaires avaient eu bien du mal à extraire. Eh bien, en France, on consomme plus de 3 milliards de pailles par an, encore plus aux États-Unis. 500 millions de pailles sont utilisées tous les jours. Or, elles ne sont pas recyclables, elles finissent souvent dans la nature, dans les rivières et donc dans les océans, où elle se fragmente en microparticules. Au Royaume-Uni, McDo annonce qu'il va tester à partir du mois prochain des restaurants sans paille en plastique. Elles seront remplacées par des pailles en papier recyclable et surtout, elles ne seront plus distribuées systématiquement. Les clients devront les demander au comptoir.
Et d'ailleurs, au Royaume-Uni, Sandy, en très peu de temps, finalement, la paille est passée du statut d'accessoire anodin et ludique pour siroter son verre à tueuse de tortues à bannir et même la reine d'Angleterre, du coup, s'y est mise.
Oui, c'est la Straw War. La guerre contre la paille, petit clin d'œil à Star Wars, et c'est un peu grâce au naturaliste David Attenborough, 91 ans, outre-Manche, c'est une figure, il est aussi connu que le commandant Cousteau en France. Sa dernière série documentaire, Blue Planet, Planète Bleue, a provoqué un électrochoc. L'on y voit la beauté de l'océan et de ses habitants, mais c'est aussi les ravages de la pollution plastique qu'il montre. Dans une interview à la chaîne Sky News, David Attenborough raconte l'une des séquences du tournage qui l'a bouleversé avec les albatros, le plus grand oiseau marin.
Vous savez, les albatros sont des oiseaux tellement formidables. Ils restent en couple pendant 50 ans. Ils sillonnent l'Antarctique à la recherche de nourriture et ils nourrissent leurs petits. Nous avons tourné une séquence où l'on voit des petits en train d'être nourris. On voit ce qui sort du bec de l'adulte. Eh bien, ce n'est pas du poisson ou du calamar, ce qu'ils ont l'habitude de manger. C'est du plastique et c'est bouleversant.
Dans la foulée, la BBC, qui diffusait cette série documentaire exceptionnelle, annonçait un plan drastique pour réduire les déchets dans ses bureaux. Et la reine d'Angleterre déclarait la guerre au plastique dans ses châteaux. Fini les pailles en plastique à Buckingham.
Alors, il y a aussi même une journée internationale sans paille. La première a été organisée le 3 février dernier par des ONG. Honnêtement, on s'en est pas rendu compte. Mais allez-y.
Oui, c'est une mobilisation à la mode aux États-Unis. Plusieurs villes ont décidé de bannir les pailles en plastique, comme à Seattle ou Miami. Une pétition pour les interdire circule également en France. Alors, pourquoi une telle levée de bouclier contre la paille, alors qu'elle est très loin d'être la première source de pollution des océans? D'abord parce que c'est devenu le symbole de l'objet en plastique à usage unique, non recyclable et non indispensable. C'est plus facile de s'attaquer à la paille, par exemple, qu'à des bouteilles en plastique. On peut s'en passer sans forcer les gens à changer drastiquement de mode de vie. C'est toujours cela de gagner pour l'environnement.
Alors, pour en revenir quand même au géant du hamburger dont on parlait au début, Sandy, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même.
Oui, parce que bannir les pailles en plastique dans les restos McDo du Royaume-Uni, ça va bien sûr dans le bon sens, mais réduire les montagnes de déchets d'emballage générés par l'industrie du fast-food à travers la planète, ce serait encore mieux. Et là, il y a encore d'énormes disparités d'un pays à l'autre. En Allemagne, McDo recycle presque 90% de ses emballages. En France, presque rien. Pourtant, les boîtes à hamburgers sont en carton. Sur 1400 restaurants, seule une soixantaine ont une poubelle de tri sélectif. Et puis, dans certains pays d'Asie, les hamburgers sont encore vendus dans des boîtes en polystyrène, par exemple à Hong Kong ou aux Philippines, un plastique non recyclable. La plus grande compagnie de restauration au monde promet qu'en 2025, les emballages de ses 37 000 restaurants seront recyclés. C'est dans 7 ans, les ONG attendent de voir pour le croire.
Allez, la Straw War, donc, comme Star Wars, commence en Angleterre, grâce entre autres à la reine d'Angleterre, Sandy Dauphin. Merci beaucoup, le feuilleton écolo. C'est tous les mardis dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, une nouvelle fois, le prince héritier d'Arabie Saoudite secoue le cocotier. Il est en visite aux États-Unis. Il sera chez nous en France d'ailleurs à partir de dimanche prochain.
Et jusqu'à mardi, ouais.
Mohamed Ben Salman a reconnu le droit des Israéliens à vivre en paix dans leur territoire. Ce qui est énorme quand on songe quand même à cette phrase, c'est un nouveau signe du rapprochement croissant entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, vous nous dites, ce rapprochement n'est pas nécessairement une bonne nouvelle.
Alors c'est vrai, d'abord on est tenté de se dire formidable, c'est la grande réconciliation israélo-arabe. Jusqu'à présent, les deux pays ont toujours refusé de se reconnaître l'un l'autre et Israël a toujours rejeté les plans de paix qui avaient été mitonnés par l'Arabie Saoudite. Mais depuis quelques mois, le réchauffement est évident, partage d'informations sécuritaires, échanges commerciaux et autorisation de survol de l'espace saoudien pour les avions israéliens, ce qui est un fait absolument majeur. Et puis voici donc le pompon, MBS, c'est le surnom de Mohamed Ben Salman, reconnaît donc aujourd'hui le droit des Israéliens à posséder leurs terres, à condition que les Palestiniens aient aussi leurs terres à eux. Le contexte, les affrontements à Gaza, tout ça aurait pu faire hésiter le prince héritier. Eh bien, pas du tout, avec la bénédiction de Washington et à Washington. Le voilà qui, en quelque sorte, installe l'Arabie Saoudite en quasi-allié d'Israël. La grande puissance arabe sunnite qui fait ami-ami avec l'État juif, sur le papier, c'est vrai qu'on se prend à rêver de paix, sauf que ce rapprochement est source d'inquiétude, au moins trois sources d'inquiétude, donc on peut les examiner ensemble.
Alors, la première de ces inquiétudes, Jean-Marc, c'est la composition de l'attelage, on va dire.
Oui, voilà un trio qui n'est pas totalement rassurant. Il fait un peu, si vous voulez, carpe et lapin. Je veux parler des trois dirigeants concernés. Il y a là un jeune trentenaire saoudien, MBS donc, qui joue de sa réputation de modernité pour transformer son pays méthode bulldozer. Un premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui paraît usé après 9 ans consécutifs au pouvoir, qui est empêtré dans de multiples enquêtes judiciaires et dans des dossiers compliqués. Florence Paracuelos en parlait tout à l'heure, qui en plus est tenu par son aile droite la plus radicale. et un président américain, Donald Trump, dont la première caractéristique, on va dire, est d'être imprévisible. On a donc là trois hommes très différents, donc un attelage improbable. Et en plus, ils sont à la tête de trois pays qui ont quand même multiplié quelques aventures militaires hasardeuses ces dernières années. Je pense à l'Irak pour les États-Unis, à la guerre contre le Hezbollah au Liban pour Israël et à l'intervention au Yémen pour l'Arabie Saoudite qui pour l'instant ne porte pas ses fruits en termes militaires. Donc en résumé, on a un attelage dont on peut craindre une forme d'impulsivité sur un éventuel terrain de guerre.
Et d'ailleurs, tiens, justement, c'est la deuxième source d'inquiétude, Jean-Marc. Ce rapprochement est motivé par l'existence d'un ennemi commun.
Et cet ennemi commun, c'est qui ? C'est l'Iran. Et c'est là, en fait, la clé de cette lune de miel. Les trois pays, les trois leaders assimilent l'Iran à une menace. Et ils ont parfois des mots extrêmement raides. Par exemple, Mohamed Ben Salman estime que le leader iranien Ali Khamenei est pire qu'Hitler. Parce que Hitler, dit-il, a voulu conquérir l'Europe alors que Khamenei, lui, veut conquérir le monde. Fermez les guillemets, hein. Alors entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de faire passer les Iraniens pour des enfants de cœur, ils n'en sont pas, leur ingérence en Syrie, au Liban et même au Yémen suffit à démontrer le contraire et le risque qu'ils font courir à Israël est indéniable. Simplement, cet attelage Trump, MBS, Netanyahou comporte en lui-même un risque d'escalade. En plus, nous sommes avec trois leaders qui sont confrontés à une forme de contestation interne, différente dans les trois pays, mais quand même, et dans ces cas-là, on le sait, la tentation du conflit extérieur est toujours forte pour faire en quelque sorte passer les conflits intérieurs. Et nous sommes aussi en présence de trois pays qui ont d'énormes capacités, non seulement financières, mais militaires. D'ailleurs, les ventes d'armes françaises à Riyad, soit dit en passant, ne sont pas étrangères à cette situation. Pour compléter le tableau, il y a, dans le cas de l'Arabie Saoudite, une compétition politique avec l'Iran pour s'affirmer comme le leader régional. Et cette compétition, elle est souvent habillée en des termes religieux. C'est le fameux sunnite contre chiite. C'est une forme d'instrumentalisation, en fait, et de caricature qui vise à instrumentaliser les foules. Et ça, ce n'est jamais très bon. On peut donc se retrouver avec un conflit sur les bras ou, à minima, des conflits par procuration sur des terrains tiers.
Et donc, je vous vois venir, ça, c'est la troisième source d'inquiétude.
Oui, parce que cet attelage fait en quelque sorte des otages, au moins deux otages. Je m'explique. Le premier, c'est le Liban. On l'a bien vu avec cet étrange épisode, souvenez-vous, en novembre dernier, à la fin de l'année, de la démission provisoire du Premier ministre libanais Saad Hariri, qui a apparemment été piloté depuis Riyad. En fin de compte, il a fini par revenir sur sa décision, il est redevenu Premier ministre, etc. Mais tout cela a démontré quelque chose, c'est que l'Arabie Saoudite refuse d'admettre le rôle du Hezbollah, formation pro-iranienne, dans l'équation globale du Liban. Et comme souvent par le passé, le Liban peut donc devenir une terre de conflit par procuration. Israël et Arabie Saoudite d'un côté, Iran de l'autre. Deuxième otage, là aussi j'ai envie de dire comme souvent par le passé, les Palestiniens. Parce que si Israël et l'Arabie Saoudite deviennent alliés pour s'opposer à l'Iran, le règlement de la question palestinienne pourrait en quelque sorte devenir anecdotique dans leur stratégie secondaire. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Suivez parce que c'est un petit peu compliqué, mais ça pourrait précisément pousser le Hamas palestinien, donc le plus radical des mouvements palestiniens, dans les bras de l'Iran. Et ça non plus, ça serait pas bon du tout. Donc, dans cette lune de miel, il y a aussi potentiellement des tempêtes en série.
Allez, Jean-Marc Four, merci beaucoup. À demain, Jean-Marc Four. Et le monde à l'envers, comme tous les jours, dans Un jour dans le monde, le 18-20 de France Inter, continue avec le téléphone sonne. Vous pouvez nous appeler, tiens, depuis les bouchons. Pourquoi pas, on parle des grèves ce soir. On se demande notamment si l'accumulation de conflits fait réellement un printemps social. On en parle ensemble donc dans un instant. Ça se passe au 01 45 24 7000.